suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel.
Nous sommes le premier lundi du mois sur les ondes de Radio Campus 106,6 et comme tous les premiers de lundi de chaque mois de 8h à 9h, eh bien c'est l'heure de tous essentiels l'émission du revenu de base et un revenu de base qui fête ses 10 ans cette année. Et donc, on a la chance d'avoir une invitée exceptionnelle en la personne de Virginie Deleu aujourd'hui. Bonjour Virginie, ça va bien ?
Bonjour Max.
Alors, j'ai une première question tout à fait essentielle à te poser. Imagine demain, tu as pour vivre tous les mois un revenu fixe qui tombe. Qu'est-ce que ça change à ta vie ?
J'ai
bien cette question quand même.
C'est horrible. C'est la première fois que c'est toi qui la poses et que c'est moi qui dois y répondre. C'est quand même plus pratique de la poser aux autres. Mais écoute, moi je suis prof et fonctionnaire, donc j'ai pas le stress. Je suis pas habituée au stress de la fin de mois. Ça, j'avoue que je suis préservée de ça. Et en même temps, comme j'ai déjà fait un burn-out, j'ai conscience que cette sécurité peut se perdre. Donc je pense que quand même, ça m'assurait une sécurité en plus hors de mon emploi. Et ça me permettrait vraiment de voir mon emploi, donc métier de prof, de vérifier que j'aime bien en fait. Donc là tout de suite maintenant, je me dirais je continuerai parce que j'adore vraiment mon métier. Français en collège, ça m'éclate. Surtout que maintenant je suis aussi formatrice de prof en communication non violente, en justice restaurative. Donc c'est voilà, j'ai la chance de pouvoir faire vraiment ce que j'aime. Et en même temps, je me rends compte que j'ai aussi des demandes en dehors de mon métier pour pareil partager mes compétences ou accompagner d'autres collectifs. Je pense notamment pour ceux que ça intéresse, hein, il y a un mouvement local et national qui s'appelle La Base. Donc base d'action sociale et écologique avec plusieurs associations plutôt écologiques et plutôt jeunes comme Extinction Rébellion, Terre de Liens tout le mouvement Alternatiba qui est en train de se concrétiser et je suis très heureuse de pouvoir participer à ce mouvement et de pouvoir les accompagner avec mes compétences, mais c'est limité parce que je suis déjà à temps plein à côté et plus à la famille, plus etc. Donc je pense que je me mettrai quand même à mi-temps dans mon métier. Et je profiterai du revenu de base pour offrir mes compétences de bientôt cinquantenaire à d'autres structures ou d'autres groupes qui n'ont pas les moyens en fait de se payer des formations. Donc ouais, je pense que je ferai ça.
Ça te permettrait de travailler plus en quelque sorte.
Oui, mais de réduire mon emploi. Donc tu vois, on est vraiment sur la valeur travail. Et je pense que ça me rassurait, là, on va reparler des retraites sans doute à un moment donné, mais parce que je ne me vois pas à 64 ans devant des ados. Moi, eux, ils ne vieillissent pas. Moi, si. donc, il arrive un moment, je pense que ouais, travailler dans d'autres circonstances ou à un autre rythme, ça me fera du bien, quoi. Donc voilà, ça va, c'est sympa comme question finalement. Maintenant que je passe de l'autre côté, donc vous avez compris aujourd'hui, je suis l'invitée et c'est Max qui va me driver avec des questions et toujours nous partager sa musique appropriée. Il vous a préparé quelques pépites.
Et voilà, et ben pour continuer, en fait, je te posais d'autres questions quand même. Hein,
vas-y,
mais
vas-y.
Donc, comment c'est venu à toi le revenu de base ?
Alors j'ai eu beaucoup de chance. Dans ma jeunesse, j'étais animatrice de chantiers internationaux. Il y a quelques grandes associations en France que je recommande, qui sont vraiment très, très chouettes. Et j'ai atterri dans une communauté d'Emmaüs à Montauban, qui est une communauté très très dynamique. Et c'est des compagnons et des volontaires de cette communauté qui m'ont parlé du futur mouvement français pour le revenu de base. Et donc j'ai assisté, j'ai découvert ça. Exactement, il y a 10 ans, en mars 2013, lors de l'Assemblée constituante du mouvement.
T'étais là au tout début, tout début.
Au tout début, oui, à sa naissance, je l'ai vu naître. Et pour moi, ça reste vraiment un souvenir assez extraordinaire. J'étais déjà un peu militante, mais pas dans des organisations, un petit peu. Oui, même pas encore syndicat. Enfin, si, déjà syndicaliste, mais pas partisane encore, etc. Et j'ai découvert une centaine de personnes réunies dans un grand amphi. Il y avait déjà eu quelques rencontres en amont. Et en fait, je vais vous donner l'histoire, l'image d'une roue. Pour moi, ça a été ça, le début du MFRB. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressaient à l'idée d'un revenu de base, qui se sont rencontrés pour co-construire une définition qu'on a votée lors de l'Assemblée constituante. Donc, je vous rappelle, hein, en fait, c'est ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire donner à chacun, de sa naissance à sa mort, suffisamment pour vivre, de façon alors individuelle, contrairement à beaucoup d'aides aujourd'hui qui sont conditionnées à la famille, etc. De façon inconditionnelle aussi par rapport aux conditions de ressources, par exemple. Donc, même les riches l'ont. On le reprend souvent par l'impôt, mais en tout cas, ça tombe pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas besoin, du coup, il n'y a pas de dossier à faire, il n'y a pas d'humiliation en guichet, etc., etc. Pas de non-recours, tout ça. C'est aussi sans contrepartie. Donc, on voit aujourd'hui qu'on est en train de régresser avec, dans notre département du Nord, on est quand même précurseur, ou cocorico, sur justement la conditionnalité du RSA à du travail. Donc, ça s'appelle... Je le rappelle, de l'esclavage, puisque c'est du travail non payé. Donc voilà. Et aussi, un côté inaliénable. C'est-à-dire que vous allez en prison, vous continuez à l'avoir. Enfin voilà, il n'y a aucune limite à le recevoir à partir du moment où on fait partie d'une communauté. Donc voilà, la délimitation de cette communauté et le montant de ce revenu de base sont à définir démocratiquement. Ce qui nous permet dans le mouvement de réunir déjà tous ces premiers porteurs de propositions et d'idées à travers leurs différences aussi. Et aujourd'hui d'être, alors on dit plus transpartisan parce que voilà, ça peut poser, porter à confusion. On n'est lié à aucun parti, on n'est lié à aucune religion. On soutient toutes les versions sans régression. Et donc, effectivement, là, aujourd'hui, tout de suite, les propositions qui émergent de la Macronie ou qui émergent du Rassemblement national, parce que ça commence quand même à filtrer, ça ne marche pas. Non. Voilà, d'abord parce que c'est des régressions à notre système social, tout simplement, d'aujourd'hui. C'est pire que maintenant. Et en plus, parce que, du coup, il n'y a aucun progrès. Donc, pour nous, on les dénonce même, donc, notamment le revenu universel d'activité de Macron. Et on a été, avec d'autres assos de la société civile, à le dénoncer, à le combattre.
Parce que... Au final, quand le mouvement français pour le revenu de base s'est créé, l'idée du revenu de base existait déjà depuis longtemps.
Alors, depuis très très longtemps, on a des premiers textes sur le livre Utopia de Thomas More, à la Révolution française, avec Thomas Paine, etc. Mais elle reste d'abord souvent dans des sphères très, très intellectuelles, d'économistes. Keynes en a parlé dans une version, etc. Et quand ça s'est pris dans la vie politique ou la société civile, ça reste très, très, très petit. Voilà. C'est-à-dire que c'est des gens qui trouvent l'idée intéressante, qui vont essayer de la porter, aussi parce que du coup, elle n'est pas portée. Donc, ça permet de se faire une identité, mais c'est tout et ça ne perce pas. Et en fait, en 2013, il y a vraiment eu comme ça une réunion. Je compare ça à une roue parce qu'il y a le moyeu central, c'est l'idée, donc avec la définition qu'on a votée et qui maintenant est internationalement reconnue. Elle est le centre du mouvement international. Et tout autour, il y a les rayons de cette roue. Et des rayons qui peuvent aller vers des projets de société finalement très différents, avec quand même le tour de la roue qui est un progrès social. Donc c'est bien pour avancer, ça c'est la base. Et en même temps, il y a plein de façons d'y arriver. C'est-à-dire que je peux en citer quelques-uns qui étaient présents, que j'ai rencontrés... lors de cette assemblée constituante, il y avait Frédéric Bosquet qu'on a vu ici avec son projet Terra et donc qui veut revitaliser des territoires ruraux avec un mélange de revenus de base et de monnaie locale. On a eu Marc de Basquiat aussi, que je mettrai un peu en parallèle avec Guy Vallette et Jean-Éric Yafil dans des propositions plus liées à des contributions sous forme d'imposition, par exemple, donc des leviers d'impôts. Alors de 500, 1500 euros. Enfin voilà, les montants sont variables, mais c'est plutôt cette piste-là. Il y avait aussi à l'époque Gérard Fouché et Stéphane Laborde, qui sont les chantres de la monnaie libre. Il y a Stanislas Jourdan aussi, qui est encore très impliqué dans le mouvement, qui lui s'est impliqué par la suite dans l'association Quantitative Easing for the People, c'est-à-dire la création monétaire au niveau européen, directement dans la Banque de France, et notamment Yolande Bresson qui avait participé aussi aux préparations, dont on a eu la belle-sœur et le frère récemment pour porter sa proposition pareil. Donc on voit vraiment comment le mouvement a jouer un rôle de mouvement, c'est-à-dire de rassembleur. Et de rassembleur aussi en termes société civile, puisque agir contre le chômage, donc assez, voilà, cotise pour le mouvement, etc. Et on travaille avec ATD, etc. Donc on n'est pas un think tank, on est vraiment un mouvement parce que on réunit des gens, des individus comme toi et moi qui sont intéressés, ont envie de s'investir de façon transpartisane, des mouvements sociaux, d'autres mouvements sociaux. On travaille beaucoup avec Utopia, on a travaillé avec Alternatiba, etc. Et tout ça permet de se réunir et de parler sereinement d'une idée, même si ou au-delà des différentes versions et avec ces versions et jusqu'à des expérimentations, parce que si vous allez, donc notre site c'est revenudebase.info, vous pourrez avoir justement des infos, nos émissions, celles qu'on est en train de réaliser, et plein d'articles sur tous les sujets et aussi toutes les propositions, les avancées, etc. Donc voilà, c'est un espace public de réflexion et de discussion.
Et alors, hormis ces quelques célébrités dont tu nous as parlé, parce que forcément, à un moment donné, l'idée revenue de base a été reprise par une série d'hommes politiques. Oui. Est-ce qu'ils se sont rapprochés du mouvement français pour le revenue de base ou est-ce qu'ils ont fait moi je défends ma version et c'est tout?
En fait, les deux. Les deux, et c'était un peu notre objectif aussi. Notre objectif, c'est pas de porter une proposition, par exemple. Par contre, quand un politique vient nous voir, et je pense notamment à Benoît Hamon, puisqu'en 2017, il a présenté à la présidentielle, ou Sandrine Rousseau, qu'on a rencontré aussi, ou Charlotte Marchandis, qui s'était présentée deux fois, qui avait été choisie deux fois par les mouvements populaires. En fait, ils viennent nous voir pour avoir une idée un petit peu de tout ce qui existe, déjà de l'idée elle-même, de ses impacts possibles, des expérimentations, d'autres formats possibles. Et à partir de là, ils construisent leur propre version. Donc, par exemple, Benoît Hamon s'est tourné après vers Monsieur Piketty, économiste reconnu, qui lui a construit une version qui était vraiment en adéquation avec ses valeurs et ce qu'il voulait porter dans le cadre du Parti Socialiste de l'époque. Donc, après, effectivement, en France, en 10 ans, donc notre slogan, en fait, cette année anniversaire, c'est « Il y a 10 ans, on y pensait », donc c'est ce que je viens de vous présenter, et dans 10 ans, on l'aura fait, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de voir que même si aujourd'hui, là tout de suite maintenant, on l'a dit, c'est un peu au point mort et même en décélération et en régression, n'empêche qu'il y a tout un mouvement qui monte. Alors, parmi les politiques, on peut en parler, on a eu, donc Benoît Hamon l'a dit en 2017, il y a une vingtaine de départements socialistes qui ont demandé une expérimentation pour améliorer le système social d'aujourd'hui, le RSA, les prestations, etc., avec notamment la fondation Jean Jaurès. Donc évidemment, ils n'ont pas eu le droit de faire leur expérimentation, parce que Macron, même s'il l'avait promis, n'en a accordé que très peu, et puis surtout pas celles qui vont contre ses propres intérêts. Mais n'empêche qu'on voit que ça monte au niveau politique. Nous, on a été interpellés... On a animé des colloques à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale pour un débat public. Bon, le pape François le défend pour éradiquer la misère. Ça, c'était tous les deux en 2020. Et on voit aussi comment, même de façon plus locale, ça se développe. Donc, il y a des villes qui en parlent de plus en plus, à l'instar des États-Unis. Il y a une centaine de villes aujourd'hui aux États-Unis qui parlent de revenus de base et qui essaient de l'instaurer. Il y a eu un sondage IFOP aussi en 2016 qui disait qu'il y a 62% des Français, 62-67, qui seraient pour. Un peu, beaucoup, passionnément à la folie, mais pour. C'est-à-dire que l'idée est connue et elle est soutenue. Donc, il y a encore des réticences. Les 30 et des briquettes pour cent, c'est des réticences sur la conditionnalité. On a encore un peu de mal à se dire qu'on va donner de l'argent à tout le monde sans condition. Donc, il y a encore des freins sur la valeur travail, une sorte d'assistanat, ces freins de confiance, finalement, vers l'autrui. Mais quand on demande à chacun qu'est-ce qu'il ferait avec son revenu de base, on retombe sur le sondage qui a été fait en Suisse et en Allemagne, c'est-à-dire qu'il y a 2% de gens qui disent « j'arrête totalement de travailler, je ne fais plus rien ». Et c'est en dessous du quota de burn-out en Europe occidentale. Donc, la plupart des gens disent « je continue comme avant », à peu près 60%. Et puis, il y a une trentaine de personnes qui disent des personnes interviewées qui disent maintenant que j'ai le choix, je continue à travailler dans un emploi, mais différemment, en fait, soit à mon compte, soit moins, un peu comme moi, finalement, équilibré avec autre chose, la vie de famille ou d'autres engagements plus libres, etc. Donc, on voit, en fait, à travers tout ça et les expérimentations partout dans le monde, qu'il n'y a que des avantages à mettre un revenu de base en place, que ce soit économiquement, puisque ça rebooste l'économie, ça libère les gens pour faire leur activité. Ils n'ont plus besoin que ce soit directement rentable pour en vivre, puisqu'ils ont déjà de quoi vivre. Ils peuvent mieux négocier leurs conditions de travail. Les femmes, les jeunes, c'est l'émancipation. Les vieux sont sécurisés, etc. Enfin bref. Donc la santé aussi, on est beaucoup moins malade. Enfin bref. Donc là, je vous renvoie sur les émissions précédentes, je ne vais pas tout refaire, mais en tout cas, il y a beaucoup d'espoir. Et le fait que, en termes de population, donc on a un axe pollinisation maintenant pour l'avenir au MFRB, et en termes politiques, on a un axe plaidoyer. En fait, tout émerge. Donc là, on est dans une période, encore quelques années, allez, disons, encore 3 ans de mandat présidentiel, où ça se verra pas, mais c'est comme des sables mouvants, tu sais. En dessous des sables mouvants, il y a des tas de rivières. Et c'est ça qui fait les sables mouvants. Et les grandes bâtisses, que ce soit les grandes entreprises multinationales ou les grands partis bien sclérosés, sont en train de s'effondrer. Mais c'est parce que les courants sont en train de se construire en dessous et la relève et monte, vraiment. Donc,
pleine d'espoir, Virginie, ce matin. Mais j'en suis ravi. Je te propose une petite pause musicale.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais. Qui marie cerise et grenade aux 100 fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme aubade, mes lèvres s'épanouissaient. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade. C'est un nom terrible à dire quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade,
camarade?
Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit.
Camarade, camarade.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais. Dans mon cœur battant la chamade pour qu'il revive à jamais. Ce mari, cerise et grenade aux 100 fleurs du mois de mai. Du mois de mai.
Tu me lances?
C'était les Gabonistes sur les ondes de Radio Campus 106,6. Mais oui, Virginie, je te lance sur la suite. La suite de cette émission, c'est à l'international. Ça se passe comment, dis-moi ?
Écoute, depuis 2013, en fait, ce qui s'est passé en 2013 déjà, c'est qu'en même temps que le mouvement se lançait, donc le mouvement français pour un revenu de base, il y avait une première initiative citoyenne européenne qui demandait en fait aux citoyens européens de voter. Alors je sais pas, c'est peut-être le moment de rappeler à nos auditeurs qu'il existe en fait un levier de démocratie directe en Europe.
Ah oui, alors le levier que personne n'utilise, c'est celui-là.
Mais c'est ça, c'est fou. Donc en fait, si vous allez sur le site Initiative Citoyenne Européenne, il y en a plusieurs qui sont en cours, dont certaines qui sont assez intéressantes, notamment, je ne sais pas, par exemple, sur la taxation des avions, ou les pesticides, enfin voilà, des petits détails de notre vie quotidienne. Et en fait, on peut voter à partir du moment où on habite sur le territoire européen et qu'on est européen. Et si les porteurs de la proposition réussissent à réunir 1 million de signatures réunies sur 7 pays, eh ben, leur thématique, leur proposition est saisie par le Parlement européen. Alors, qui peut dire non, évidemment, mais qui est quand même obligé, du coup, de justifier, de faire un peu d'études, etc. Et donc, du coup, nous, on a été une des premières ICE à être proposée en 2013, quand ça a été lancé. Et on a récolté 300 000 signatures, presque 300 000 sur toute l'Europe. Donc ça a permis aussi de lancer le mouvement européen donc qui s'appelle Youbi. Et le bien qui était avant européen est devenu mondial. Donc maintenant, le mouvement mondial s'appelle Basic International. Basic Income Earth Network. Et donc, il est porté notamment par Philippe Van Parijs, qu'on rencontre régulièrement et qui soutient ce mouvement.
Ok. Et donc, il y a une question que je me pose souvent, c'est au niveau de faire communauté. Comment on peut définir la communauté pour le revenu de base ?
Le périmètre, tu veux dire ?
Oui, le périmètre.
Tu vois, c'est très, très variable.
Et puis, pareil, au sein du périmètre, est-ce que on va avoir tendance à accueillir tout le monde ou à exclure ceux qui sont en voyage privé avec leur jet ?
Ou la grande question des migrants aussi. Voilà, tout à fait. Alors, dans les expérimentations qui existent aujourd'hui, il y a des expérimentations, tu vois, qui sont lancées soit par des fondations, des fonds privés, donc qui vont viser des communautés qui sont très très différentes. Je pense notamment en Afrique où ils prennent des petits villages, par exemple, pour pouvoir en faire analyser, justement, avoir des indicateurs fixes, clairs, et avec des villages témoins, etc. Donc là, les périmètres sont plutôt dépendants du fait qu'on fait une expérimentation et qu'on a besoin de chiffres, d'indicateurs scientifiques. Après, il y a des expérimentations qui se font notamment lancées par des municipalités ou même des pays. Donc aux États-Unis, il y a beaucoup de municipalités qui sont en train de se lancer là-dedans, ou carrément un pays. On peut penser à l'Alaska qui a un revenu de base depuis 40 ans. Donc là, la communauté va être celle du territoire avec les mêmes conditions qu'on peut avoir en France, par exemple, pour nos allocations ou pour le RSA. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ne sont pas directement françaises, mais qui vont l'avoir parce qu'elles travaillent sur le territoire depuis autant de temps, etc. Donc là, c'est vraiment démocratiquement que ça doit être décidé. Mmh. Et ça passe par les lois ou par les habitudes du pays.
Je vois. Ah ouais, parce que les citoyens qataris ont également un revenu de base, hein, tu sais, mais voilà, ils sont pas beaucoup par rapport au nombre d'habitants du pays.
Voilà. Et les autres, bizarrement, n'y ont pas droit. C'est incroyable.
C'est quand même dingue.
Mais
c'est
oui, tout à dingue. Fait.
Alors que sans doute, ils en auraient plus besoin. Mais bon, enfin, c'est ce dit en passant. Allez, on continue avec cette histoire de revenu de base. Et demain, dis-moi, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ce revenu de base ?
Alors demain, en tout cas au niveau du MFRB, c'est-à-dire ce qui est dans notre pouvoir d'agir, on se lance dans deux pistes, on continue nos deux pistes, puisqu'on a décidé que dans 10 ans on l'aurait en France. Dans l'objet de l'association, c'est on disparaît, un peu comme Coluche avec les, avec les Restos du Cœur, on a prévu de disparaître, de ne pas être tout le temps indispensable au moment de l'instauration d'un revenu de base en France. Mmh. Et donc du coup, on a deux jambes. On marche avec d'un côté le plaidoyer, donc on continue à aller voir tous les élus qui veulent bien nous rencontrer pour instaurer un revenu de base. Alors moins en ce moment au niveau national, même si du côté gauche, et notamment la NUPES y réfléchit, que ce soit les Verts, parce que voilà, on a vu que par exemple la primaire écologiste s'est emparée de cette question-là à travers Sandrine Rousseau et Delphine Bateau qui l'ont portée, avec deux thématiques un peu différentes mais très complémentaires, de l'émancipation d'un côté et de la transition écologique de l'autre. Une partie du PS, on l'a vu avec Hamon, qui est devenue un peu génération, on continue à le porter aussi, etc. Donc c'est une idée qui travaille un peu auprès des élus, mais surtout au niveau de la base. Et avec cette tension qui s'accentue, on voit notamment avec la réforme des retraites, sur des régressions, des régressions, des régressions. Et là, en fait, on voit qu'il y a un choix en termes de résistance. Soit on continue à suivre l'agenda politique que nous impose Monsieur Macron et le RN, à essayer de lutter, de limiter les dégâts comme on peut. Et donc être sur la défensive tout le temps, et en fait, on perd tout notre pouvoir d'agir, même si on descend dans la rue, etc. Ou alors, on se paye le culot d'être audacieux, quoi. Enfin, en 1945, le Conseil national de la résistance, il a pas dit, oh, ça serait peut-être bien qu'on ait des miettes. Non, il a dit, vous plaisantez, on a été fort. Heureusement qu'on était là, on a passé la crise ensemble. Là, c'était la guerre. Nous, c'est le Covid, par exemple. Si on avait besoin de se sentir légitime, on peut quand même puiser sur le fait qu'on a tenu le pays et que les premières lignes, c'était pas les politiques, c'était les soignants, c'était les profs, c'était les éboueurs, c'était nous, quoi. Et tout le réseau des associations locales, etc. Donc voilà, on peut s'estimer légitime pour ne plus avoir cette posture de défensive et dire non mais on veut plus de vos miettes, là maintenant ça suffit, on veut un contrat social beaucoup plus fort qu'avant, on veut le prochain pas. Alors évidemment moi je vais plutôt partir du revenu de base aujourd'hui, mais c'est tout un projet de société. J'ai vraiment envie de répéter que un revenu de base ce n'est qu'un outil. Alors c'est un outil qui peut prendre plusieurs versions, c'est un outil extraordinaire, c'est un levier phénoménal, et en même temps ce n'est qu'un outil. C'est-à-dire que ça n'enlève pas à côté qu'on continue à défendre les conditions de travail, qu'on continue à défendre l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, dans les tâches ménagères, etc. Tout ça c'est cohérent, ça va ensemble. Et je glisse ici que dans le MFRB par exemple, il y en a qui sont plus ou moins spécialisés, il y en a qui sont syndicalistes, il y en a qui sont etc. Et on essaye de vivre dans même notre mode de fonctionnement. On est en sociocratie, par exemple, on est en gouvernance partagée, on travaille sur notre gestion de conflits, etc. Il n'y a pas que un outil, il faut penser global aussi. La transition écologique ne se fera pas toute seule grâce à un revenu de base. Et en même temps, quel formidable levier. Imaginez, moi je repense toujours aux chiffres et aux analyses du Shift Project, même si le soutient pas officiellement le revenu de base parce qu'ils veulent pas se positionner politiquement, mais le fait d'avoir un revenu de base, ça permettrait à tout à chacun de se former sur autre chose, sur d'autres métiers plus écologiques, de lâcher les bullshit, et on voit avec toutes les démissions aujourd'hui dans les grandes écoles, et de l'autre côté du spectre social, alors surtout aux États-Unis mais un peu en France aussi, tous ceux qui lâchent leur boulot, quoi. Tous les artisans, enfin beaucoup d'artisans ont du mal à embaucher, mais parce que les conditions de travail qu'ils proposent sont compliquées, mais parce que les chefs d'entreprises artisans ne réussissent pas à joindre le debout, et ils payent plus de taxes que les grosses entreprises. C'est hallucinant aussi. Donc c'est tout un système qui est en train de trouver ses limites. Je parlais des sables mouvants, parce que les petites gens, entre guillemets, la France d'en bas en a marre de trimer pour pas grand-chose, parce qu'il y en a plein qui de toute façon ne sont pas dans le système du travail, alors qu'ils ont tellement à donner et qu'ils ont tellement envie de participer. Je connais très très peu de chômeurs, à part les dépressifs, mais là c'est une maladie, c'est autre chose, qui n'ont pas envie de se sentir utiles. C'est complètement aberrant de penser qu'un chômeur est feignant. C'est pas vrai. Enfin, il faut en connaître quelques-uns et discuter vraiment avec eux pour se rendre compte que derrière il y a une perte de dignité, il y a une humiliation constante qui peut amener à la dépression. Mais sinon... Sinon, ils ont plein de choses à offrir, et comme ceux qui sont déjà au travail. Donc voilà, il y a de la main-d'œuvre, il y a des envies, il y a de quoi faire. La transition écologique, la transition sociale, mes élèves n'attendent qu'une chose, c'est de trouver leur place, quoi. Mais dans quelles conditions ? Il y a des moments où il faut dire stop aussi, quoi. Donc voilà, que ce soit les jeunes étudiants qui sortent des grandes écoles, comme la personne qui travaille au McDo ou qui travaille dans le BTP à ses risques et périls.
Eh bien, écoute, tu m'as offert une transition toute trouvée pour sans doute la chanson que j'ai le plus passée depuis le début de cette émission. C'est Renaud Bistan, Les chômeurs de mon quartier. C'est parti.
Les chômeurs de mon quartier devraient être salariés pour leur bonne humeur et leur disponibilité. Leur présence bienveillante fait qu'autour d'eux tout s'enchante comme un repère important qu'on peut trouver tout le temps. Comme un service public, le chômeur te renseigne quand tu cherches une rue sur un plan et que t'es pressé. Tu comprends tout de suite que tu frappes à la bonne enseigne. Il te donne de son temps sans aucune arrière-pensée. Les chômeurs de mon quartier devraient être salariés, car ils répondent présents à chaque déménagement. Ta voiture a un souci et ils plongent dans le cambouis. T'as une panne informatique et voilà l'esprit pratique. Ils sont tellement compétents dans de multiples domaines que de n'en choisir qu'un, ce serait du gâchis. Faire bêtement la même chose toute la semaine, alors qu'ils aident chacun à être mieux dans sa vie. Les chômeurs de mon quartier ont chacun 12 000 métiers. Commenter la météo, t'aider à faire ton créneau, ça ne paraît pas grand chose, mais dans nos villes moroses, d'égoïstes et de nerveux, ben ils mettent du ciel bleu. Quand j'ai besoin de parler autour d'une tasse de café, où est le psy bénévole qui m'écoutera des heures? Ce sont les copains chômeurs toujours prêts à se sacrifier. C'est bien simple maintenant, je les appelle docteurs. Mais il y en a des traîtres, des chômeurs malhonnêtes, et qui du jour au lendemain se remettent au turbin. Par une journée un peu triste où tu passes à l'improviste pour mater un DVD, le chômeur t'a planté. Il a rejoint la cohorte des gens stressés par la vie, piqué par le démon de la reconnaissance sociale. D'un air pincé, il te dira, on peut se voir samedi, que c'est triste de voir un copain trouver du travail.
Renaud Bistan sur les ondes de Radio Campus 106,6. Et j'en profite d'être aux manettes des questions aujourd'hui pour pouvoir poser les questions qui m'embêtent depuis un bout de temps. Bon alors, première question, mais si on veut vraiment utiliser le revenu de base comme un levier écolo, en fait, il faudrait avoir un revenu maximum aussi, surtout, non ?
Donc d'avoir ajouter au plancher un plafond, quoi.
Bah oui.
Quelque chose comme ça, pour qu'on vive tous dans la même pièce, finalement, dans le même monde. Eh, bonne idée. Alors, en fait, dans le mouvement français pour le revenu de base, on n'inclut pas un revenu maximal acceptable, c'est comme ça qu'il est parfois appelé, parce que certaines des versions ne le portent pas. Et on reste vraiment un mouvement qui porte l'idée et plein de versions. Donc, on ne le porte pas en tant que tel, nous-mêmes. Par contre, on recevra bientôt Stéphane Madeleine qui nous présentera la version des décroissants et qui, eux, effectivement, articulent les deux de façon évidente. C'est-à-dire que pour eux, l'un n'est pas dissociable de l'autre pour une raison déjà juste de cohérence humaine, d'équivalence. Il n'y a aucun être humain qui vaut plus qu'un autre. Et entre une heure de balayage de rue ou de ramasser les papiers et une heure de trader, bon, on pourrait parler. Alors, il y a plein de façons d'évaluer le travail. Il y a la façon du temps passé, de l'énergie passée, il y a la pénibilité, il y a l'utilité sociétale ou l'utilité économique, financière, etc. Enfin bref, donc effectivement, c'est un, un bon levier pour au moins réduire les inégalités flagrantes d'aujourd'hui et choquantes. Donc voilà, certaines versions le portent, donc on le porte à travers certaines versions, mais comme on veut vraiment rester un espace global de discussion, on ne le porte pas en direct.
Mais alors du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas certaines catégories de métiers qu'il faudrait interdire aussi? Je pense par exemple les gars qui t'appellent au téléphone à n'importe quel moment du jour et de la nuit pour te vendre...
Et j'ai beaucoup de compassion, d'abord pour moi qui reçois, comme toi, ces coups de téléphone, mais aussi pour les personnes qui sont derrière. C'est juste horrible de se faire insulter tous les cinq minutes parce qu'on dérange et parce qu'on n'a pas grand-chose finalement à présenter et pour finalement gagner peanuts, puisque la plupart du salaire est dépendante du nombre de contrats ou de nombre de signatures qu'on réussit à arracher. Alors ça fait partie des bullshit jobs qui ont été quand même bien discutés et formalisés. Je pense, alors c'est pareil, nous on porte pas ça en direct, on n'a pas une expertise là-dessus, mais il est évident que individuellement et collectivement, il y aura une réévaluation. Alors par l'individu lui-même, le travailleur qui va se dire non mais moi curer les chiottes ou curer, enfin voilà, si j'ai pas de reconnaissance, si c'est pas je veux plus le faire, avec quand même un petit bémol, parce que j'ai quand même, grâce à cette fameuse question qu'est-ce que vous feriez avec un revenu de base, interrogé un certain nombre de personnes en 10 ans, et beaucoup de personnes, même des personnes par exemple qui torchent les chiottes ou les culs des gamins dans les écoles ou des caissières, c'est un peu le métier qu'on met tout le temps en avant. Mais en fait, ces personnes ont vraiment un sens dans leur travail, se sentent utiles, rencontrent des gens et y mettent aussi du cœur peut-être être la seule personne que la petite dame âgée va rencontrer, avec qui elle va parler dans la journée. Donc, le sens du travail n'est pas forcément là, ou la pénibilité n'est pas forcément là où on l'attend. Et moi, je vois que dans mon métier de prof, il y a des profs qui sont super investis, puis d'un seul coup, ils craquent, ils n'en peuvent plus. Donc, ils n'ont pas perdu le sens de leur travail. Mais le stress est tel, et le non-sens aussi de certaines réformes, etc., etc., c'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, je vous laisse imaginer, font qu'à un moment donné, on ne peut plus. Donc il y a vraiment individuellement l'impact du travail sur le corps, sur l'esprit aussi, qui est à interroger. Et collectivement, par rapport à l'utilité, et on arrive là à des notions telles que les biens communs, etc., comment on se réapproprie l'eau, par exemple, comment on se réapproprie, et du coup, leur gestion, et du coup, les emplois qui sont afférents, comment on les revalorise. Donc, par rapport à ceux qui voudraient arrêter de travailler, on revalorise, alors, par de la reconnaissance politique, sociétale, par le salaire, bien sûr, par des aménagements des conditions de travail, par travailler moins, des horaires, etc. Il y a mille formes de reconnaissance de l'utilité de certains emplois.
Je vois. Ben ouais. autre question un peu problématique, hein, c'est on en parle régulièrement dans cette émission, les rapports avec Friot et toute la bande de Franck Lepage qui ont tendance à être parfois un peu agressifs ou légèrement tatillons sur le revenu de base.
Oui, alors ça c'est un grand malentendu. Hein. Je veux bien en rencontrer. D'ailleurs, on invitera quelqu'un du salaire à vie ici pour justement qu'ils puissent présenter leur cette version. Donc depuis le début du MFRB, on soutient le salaire à vie comme une des versions qui rentre dans notre définition de donner à chacun, de sa naissance à sa mort, suffisamment pour vivre, etc., etc., de façon inconditionnelle, tout ça. Donc pour nous, le salaire à vie est une des versions les plus ambitieuses en termes sociétal, puisque avec le fait de donner à chacun, de sa naissance à sa mort, à partir de 1500 jusqu'à 6000 euros de façon inconditionnelle, il y a aussi la réappropriation des moyens de production pour que, puisque chacun est producteur de fait, donc ça c'est leur premier postulat, on soit aussi propriétaire des outils de production pour choisir ce qu'on va en faire, et on revient à cette histoire de bien commun dont on vient de parler. Donc on est tout à fait pour cette version et on la porte, et dans chacune des présentations que j'ai pu animer, publiques, j'en parle. Dans nos publications, on a des articles, etc. Donc il n'y a aucun souci au MFRB sur le salaire à vie. Par contre, inversement, ce n'est pas vrai, puisque effectivement, Bernard Friot, qui défend le revenu de base, qui défend, pardon, le salaire à vie, oh là, je vais me faire préciser, de façon assez virulente. En fait, ce qu'il entend, lui, quand il parle de revenu de base, c'est les versions, alors, soit les régressions, alors là, on est tous contre, on est d'accord aussi, ou alors les versions qui ne sont pas suffisantes pour renverser le capitalisme, puisque là, on parle bien d'une mesure révolutionnaire. Et donc, effectivement, lui parle du revenu de base en tant que version insuffisante pour donner suffisamment d'émancipation aux gens pour récupérer leur mode de production, etc. Et donc, changer complètement le système. Il a eu, vous pouvez regarder sur Internet, par exemple, un long échange avec un gars qui s'appelle Baptiste Milondo, qui porte aussi une version proche des décroissants, et dans laquelle, de façon honnête tous les deux, ils se retrouvent sur du commun. Voilà, en gros, ça revient un peu à la définition, quoi, la conditionnalité, l'individualité, etc. Et en même temps, bah, ils se retrouvent aussi sur, ils se mettent d'accord, qu'ils sont pas d'accord, sur le niveau de l'ambition et de révolution sociétale. Et c'est tout à fait OK. Enfin, il n'y a pas de dissension à partir du moment où on est d'accord sur le fait qu'on a un noyau commun et qui est quand même pas encore sur la table ou pas encore réalisé. Donc je pense qu'on peut encore, pour un temps, être d'accord et travailler ensemble vers au moins le moyeu de la roue. Et puis quand on aura le moyeu, mais tout à fait d'accord pour foncer vers la réappropriation, enfin en tout cas personnellement. Et puis d'autres ne seront pas d'accord. Et puis voilà. Mais pour l'instant, sociétalement et politiquement, on est encore à vouloir le moyeu. Donc tant qu'on en sera là, pour moi, il n'y a pas de dissension vraiment avérée. Par contre, il y a une richesse des propositions et le salaire à vie en fait partie. On le présentera ici même bientôt. Il n'y a aucun souci pour ça. D'accord. Welcome.
Alors après, je continue avec mes questions un peu curieuses. Hein, mais
j'aurais jamais dû te laisser le micro.
c'est ça. Le revenu de base dans un monde où on va se retrouver sans doute avec des difficultés croissantes, tant au niveau climat qu'au niveau énergie, ça se passe comment ?
C'est-à-dire, je ne comprends pas la question.
Alors, c'est-à-dire, on est d'accord pour dire que, bon, à chaque fois qu'on parle du revenu de base, on ne lui met pas de montant.
Oui.
Parce qu'en fait, vu l'inflation, etc., qu'il peut y avoir, bah, ça ne sert pas à grand-chose de mettre un montant. Mais par contre, on sait que dans pas longtemps, le fait de se déplacer, par exemple, en voiture, ça va coûter de plus en plus cher, vu que c'est déjà le cas. Hein, mais ce sera également pareil pour l'électricité et pour toute une quantité d'énergie. Et qu'à côté de ça, bon, on va se retrouver également avec des phénomènes climatiques qui vont être parfois aggravés. Enfin, là, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours sur le fait que le Nord-Pas-de-Calais était dans les premières régions de France, la première région de France concernée par le dérèglement climatique au niveau impact sur les bâtiments. Et donc tout ça, ça va forcément avoir un impact sur notre vie future, je veux dire. Tu vois, quand Dunkerque sera sous l'eau pour faire le carnaval, ça sera vachement plus compliqué. Tu sais, pour le lancer de Harange, ce sera sans doute plus simple.
On se débrouillera. Je pense que le carnaval survivra toujours. Mais en tout cas, quelles que soient les ressources qu'on a, moi, ce que je vois surtout dans cette formidable idée, c'est la communauté dont on parlait. C'est-à-dire que dès la naissance, n'importe quel humain fait partie de la communauté et pas seulement en droit. On a évidemment nos droits de l'homme, hein, on est libre et égaux en droit, blablabla, sauf qu'on est en droit, mais pas en moyen. Et les droits ne se mangent pas pour l'instant. Hein. Donc le papier de la charte ne suffit pas. Et donc du coup, pour moi, c'est vraiment un signe fort que chaque citoyens soient reçus aussi avec les moyens de vivre. Et le suffisamment pour vivre, alors qui n'est pas dans la définition stricto sensu, mais qui est dans notre façon de défendre l'idée et les versions qu'on sélectionne, qu'on défend ou qu'on dénonce. C'est vraiment ça, c'est de dire, OK, si on accepte un nouveau citoyen, on l'accepte vraiment jusqu'à lui donner suffisamment pour vivre, en amont de toute méritocratie. Parce que la méritocratie n'existe pas. C'est complètement subjectif. Les compétences d'aujourd'hui ne seront pas forcément celles dont on aura besoin demain. On voit déjà qu'il y a des gens qui ont des compétences qui sont plutôt toxiques pour la communauté, la planète, etc. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire communauté, d'accepter individuellement et collectivement chacun un niveau suffisant pour vivre. Et on revient aussi peut-être à une forme de sobriété à travers ça, puisqu'on va devoir rediscuter, discuter et rediscuter de « il faut quoi pour vivre suffisamment ?» Par exemple, oui, les transports font partie d'un droit humain nécessaire pour s'intégrer. C'est pas seulement survivre qu'on veut, c'est aussi faire partie de la communauté. La culture fait partie des droits inaliénables. Et on ne peut pas imaginer une société où on vous donne 500 euros et vous n'avez plus rien d'autre. Donc ça, on le dénoncerait, bien sûr. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de formidable, rien qu'à la discussion qu'on aura, je ne dis pas on aura qu'on aura autour du montant, parce que ça nous obligera, comme ATD l'a fait il n'y a pas très très longtemps, à demander aux gens, mais qu'est-ce qu'il vous faut pour vivre ? Et pas seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de lien social, d'acceptation, d'intégration, même psychologique. Donc un revenu de base, c'est dire à chaque bébé, bienvenue. Tu rentres dans notre communauté, tu fais partie du nous, on va t'accompagner et tu vas, dès que tu pourras, eh ben, nous apporter aussi. De toute façon, un bébé apporte tellement aussi. Les guizi-guizi qu'on lui fait et qui nous apporte plein de bonheur, hein, on ne le paye pas pour ça. Donc voilà, c'est juste cette idée qu'on est tous producteurs de richesse, quelle que soit la richesse, et qu'on mérite tous d'avoir suffisamment pour vivre. Et le fait de lancer ça, ça nous obligera, comme pour le mouvement des biens communs, à réfléchir, bon, c'est quoi nos ressources locales, régionales, nationales, suivant les différents périmètres, et européens et mondiales. Enfin, voilà, on en est aujourd'hui à ces niveaux de communication. Alors pourquoi ne pas oser aussi faire ce niveau de démocratie, quoi. Oh, c'est beau ce que je dis.
Voilà.
Je me fais rêver moi-même.
Et donc, question personnelle. Toi, personnellement, ton revenu de base favori, c'est quelle version ?
T'aurais pu prévenir, j'aurais préparé. alors, en fait, c'est un peu difficile de répondre, parce que de façon très pragmatique, je dirais comme Frédéric Bosquet, que si on me propose un revenu de base à 1 euro, aujourd'hui, je signerais pour. Parce que pour l'instant, il n'existe pas et on est en pleine régression. Donc déjà, un euro donné à chacun, ça serait un premier pas, même psychologiquement, tu vois. Donc même la version de Marie de Basquiat qui se monte à 500 euros, qui révolutionne rien, mais qui sécurise tout à chacun au niveau de 500 euros, je la prends. Voilà, ça c'est le côté pragmatique, urgent. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de faim en France ou qui meurent de stress à cause de la faim. Enfin bref, donc le plus petit pas possible, je le prends. Après, mon rêve, évidemment, ça serait que, enfin évidemment pour moi, ce serait que un, on ait suffisamment pour vivre, survivre et même s'impliquer dans la société comme on le veut et comme on le peut. Donc un montant suffisant pour se passer d'un emploi. Vraiment. Alors voilà, aujourd'hui ça peut être 1500 ou 2000, ça dépend si vous habitez en Creuse ou à Paris, quoi. Et en même temps, je pense que ça suffirait pas. Peut-être une fibre révolutionnaire, avec un accent circonflexe, tu vois, où il y aurait aussi une remise en question du système monétaire. Donc la monnaie libre m'intéresse beaucoup par rapport à ça, une création monétaire qui soit égalitaire. C'est quand même extraordinaire, qui est aussi une prise en compte de nos ressources et de la planète, et donc une réflexion par rapport à ce qu'on vient de dire, tu vois, sur nos ressources réelles. Donc il peut y avoir voilà, un levier de monnaie locale, parce qu'il y a une plus-value démocratique et écologique à ces monnaies locales, et citoyennes surtout, parce que voilà, on se met ensemble autour d'une table pour dire c'est quoi nos ressources locales, etc. Donc finalement, il y a vraiment beaucoup de leviers parmi les versions existantes qui sont tout à fait complémentaires. Mmh. Et alors que la Banque européenne nous donne l'argent qu'elle donne aux banques, alors ça, moi, ça me fait rêver, parce que ça relocalise la monnaie dans nos poches et dans la consommation réelle, l'économie réelle, quoi. Moi, je vais l'utiliser pour payer mon coiffeur, mon pain, et le coiffeur va l'utiliser pour payer son pain et son autre coiffeur ou ses fournitures, etc.
Donc, et les banques seront contentes quand même à la fin.
Au final, oui.
Enfin, ça reviendrait quand même dans leur poche à un moment donné.
Mais finalement, plus, parce que si on interroge des banquiers ma banquière du coin, elle dit, mais c'est terrible, ils n'ont pas assez de fluidité, comme ils appellent ça, ou de liquidité. Parce que les gens pauvres, mais oui, effectivement, ils réussissent à toujours grappiller un petit peu sur les agios, mais ça a une limite. Quand les gens sont vraiment pauvres, ils n'ont plus de compte en banque. Donc les banques, les banques arrivent au bout de leur système aussi. Mmh. Parce que les grosses poches qui emmagasinent tout, elles gardent l'argent. C'est dommage, mais voilà. Donc, en fait, tout le monde a y gagné, en fait.
D'accord.
En vrai.
Bon, allez, l'émission touche quasiment à sa fin maintenant, mais il restait quelques points problématiques que tu voulais aborder sur le revenu de base, là, maintenant, défendre le revenu de base pour résoudre les problèmes de nos jours, et pour résoudre le problème de la grève de demain.
Mais je ne sais pas de quoi tu parles. En fait, pour moi, j'ai vraiment envie d'inviter chacun et chacune à s'interroger, à se mettre le revenu de base en tête et tester un peu dans toutes les situations, toutes les problématiques actuelles. Les retraites, par exemple, pour moi, c'est un exemple flagrant. Retraite et revenu de base, ce n'est pas le même sujet, a priori. Parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on défend l'un qu'on ne défend pas l'autre et réciproquement. Donc, évidemment que moi, je défilerai pour défendre la retraite à 60 ans et de meilleures conditions de travail, etc. etc. Et en même temps, imaginons l'impact d'un revenu de base sur la problématique des retraites. Moi, si à 55 ans, j'en peux plus face à mes élèves, j'aimerais bien pouvoir m'arrêter. Parce que je risque de devenir violent face à moi-même, c'est-à-dire être malade de mon métier, et même agressif face aux gamins. Évidemment, je ne leur souhaite pas ça. Ça ne veut pas dire que je ne le suis pas de temps en temps quand je suis fatiguée. Mais le moins possible, quand même. Donc oui, avoir des repères collectifs... avec des limites et un cadre, évidemment, le droit du travail, etc. Et en même temps, individuellement, si j'ai un revenu de base, je pourrais me permettre à 55 ans d'arrêter de travailler et peut-être de faire des petits trucs par-ci, par-là. Donc, pour moi, c'est vraiment compatible et c'est même émancipateur, on va dire. Et pareil pour d'autres problématiques, faire grève, je pense qu'avec un revenu de base, je ferai plus facilement grève. Moi, je suis plutôt sécurisée et dans mon emploi et dans mon salaire, donc je vais faire grève assez régulièrement depuis quelques mois et sans doute les mois prochains. Et en même temps, qui est-ce qui va pouvoir se le permettre ? Avec un revenu de base, sans doute plus, parce qu'on aura cette marge-là. Pareil pour... pour le système de sécurité sociale, quand il faudra, parce qu'il va bien falloir descendre aussi dans la rue pour ça. On parlait de la transition écologique, pouvoir s'arrêter de travailler pour se former à autre chose. Ou même, je vais anticiper un peu sur ta question, sur la chanson suivante, la pépite que tu m'as fait découvrir, pardon. Mais même pour toi, en termes d'intermittent, on a un système pas mal pour les intermittents du spectacle, et en même temps, il a quand même des limites. Avec un revenu de base, interrogeons-le. Comment un revenu de base viendrait améliorer encore le système des intermittents et peut-être le généraliser, ou le système pour l'instant des étudiants. C'est pas mal, les bourses, bien sûr que ça sauve plein de monde. Et en même temps, dès que vous avez un euro en moins, vous n'avez pas les bourses. Et quand il y a des tensions entre le jeune et la famille, bref. Donc, tout le système qu'on a installé jusqu'à maintenant et qu'on est en train de perdre, d'ailleurs, il faut le défendre, bien sûr, mais il faut aller plus loin. Et avec un revenu de base, ça nous permet d'être ambitieux et de voir plus loin et d'améliorer encore plus les choses. Et je vais juste vous poser la question, parce que moi, j'aimerais beaucoup réfléchir à cette idée-là. C'est la prostitution. Il y a aujourd'hui, donc j'ai rencontré par rapport au revenu de base, un mouvement qui s'appelle le NID. Donc c'est des personnes qui veulent abolir la prostitution et qui vont accompagner vraiment des prostituées et eux et ES qui souffrent au quotidien. Et donc eux, leur travail dans le cadre du NID, c'est de travailler sur les clients. Donc eux, ils veulent que les clients soient pénalisés judiciairement. Et en face, vous avez le STRAS, qui est le syndicat majoritaire chez les prostituées, qui revendique la possibilité d'avoir un emploi, une sécurité sociale, un système de retraite, etc. Et ce sont deux organisations qui défendent les mêmes personnes, qui défendent leur dignité, etc., de façon radicalement différente, d'accord, mais avec la même intention. Et ils vont se disputer alors que au quotidien, ils agissent et que heureusement qu'ils sont là, quoi. Et je ne peux pas m'empêcher, avec mon idée fixe de revenu de base, de me dire, alors, et si on mettait un revenu de base en place, comment ça viendrait changer la vie des prostituées et ouvrir la possibilité pour les prostituées d'avoir plus le choix de leurs conditions de travail, etc., etc. Et que ce soit par les prostituées eux-mêmes et elles-mêmes que viendra le changement et le choix entre le NID et le STRAS, ou entre les deux, additionner. Voilà, c'est une, c'est une question que je pose. Et vous, est-ce que vous voyez une situation, une problématique dans votre vie qui, voilà, peut-être, avec un revenu de base, qu'est-ce que ça pourrait changer, individuellement et collectivement ?
Le prisme du revenu de base. Mais en fait, c'est des lunettes magiques que tu as, tu ne m'avais pas dit.
Je vous invite à les tester, en tout cas.
Bon.
Ne me croyez pas, testez-les.
Eh bien, allez, ma petite dernière chanson, la petite pépite de Riss et Barrier, putain le beau métier. On écoute ça tout de suite et puis on se dit au revoir juste après. C'est parti.
Putain de métier, putain, le beau métier, être putain, quelle destinée. Donner aux hommes ce qu'on a de mieux, c'est tout le système du bon Dieu, joignant l'utile à l'agréable. Elle soulage le contribuable, semant l'amour chez son prochain. Sa seule mission, c'est avant tout de faire du bien. Il faut se donner. Tout est là, comme dit monsieur le curé. Curé, le beau métier, lui aussi se donne en entier, offrant son toit, ouvrant son lit. Même à des filles peu repenties, il tend les bras devant son hôtel pour attirer la clientèle. Calice, burette et accessoires, il utilise tous les trucs de son répertoire. Pour chauffer le chrétien, il faut bien être un peu cabotin ou baladin. Baladin, le beau métier, moitié putain, moitié curé. C'est sur une scène qu'il fait le trottoir, et son calice, c'est sa guitare. Avec son œil, il fait la guerre pour convertir toutes les minettes. Quand on l'acclame, c'est Dieu le Père. Quand il se ramasse, c'est plutôt le Fils. Au calvaire, il reste hébété comme une pute qui n'a pas dérouillé. Putain de métier.
Riss et Barrier sur les ondes de Radio Campus, mon petit chouchou. Ah, je suis ravi, je suis ravi. Cette émission Tous Essentiels touche quasiment à sa fin. Est-ce que tu as des messages pour les générations futures à nous transmettre?
Déjà pour nous-mêmes, on va se souhaiter le meilleur. Non, mais dans 10 ans, on l'aura installé. Hein. On va pas faire ça pour les enfants, les petits-enfants. Non, mais ça va, quoi. Nous aussi, on le mérite. Parce qu'on le voit bien. Du coup, si jamais cette idée vous titille et vous avez envie de creuser, de vous investir. Si vous avez 5 minutes, vous pouvez aller vous connecter sur Facebook, nous rejoindre sur les réseaux Revenu de Base France, Revenu de Base Lille, Revenu de Base Montreuil. Il y a un groupe à Lyon, un groupe à Nantes, etc. Enfin bref, vous pouvez surfer là-dessus. Le site revenudebase.info, bien sûr. Si vous avez un peu plus de temps ou un petit peu d'argent, vous pouvez adhérer. Ça nous permettra de payer des tracts, des choses comme ça. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre ou en parler autour de vous. Voilà, il n'y a pas de petits pas. En tout cas, il n'y a pas de goutte inutile dans l'océan qu'on est en train de déverser.
Il y a un moment où en mars on va souffler des bougies alors.
Et ben, on a déjà commencé samedi à Lille. On était sur la place de la République. On a tracté, on a interviewé des gens aussi. Donc avec cette fameuse question, qu'est-ce que vous ferez avec votre revenu de base dans 10 ans, hein, parce que quand même, il faut qu'on s'y prépare psychologiquement. Ça pourrait être violent. Hein. donc, y aura d'autres dates. Il y a des agora aussi qui sont proposées en ligne par le mouvement, là plus au niveau national, pour pouvoir être accessible un peu partout. Donc vous aurez tout ça sur le site. Et si vous avez des liens vers des politiques, vous pouvez vous engager aussi dans notre partie plaidoyer. Donc il y a la branche plaidoyer et la branche pollinisation.
D'accord.
Welcome.
Bon, ah, comme tiens, tout le monde est au courant de tout. Virginie, merci beaucoup.
Merci de m'avoir reçue dans notre émission. C'est extraordinaire. C'est... quand même.
Mais oui, tu nous as prévu quelque chose pour avril et pour mai, je crois.
Oui, et bien d'autres versions. On va continuer à explorer d'autres personnes qui ont construit des propositions de revenus de base de façon chiffrée, de façon réaliste, réalisable, à court ou moyen terme. Et on aura parmi elles le fameux salaire à vie dont qu'on a évoqué.
Eh bien écoute, j'en suis ravi.
Bon... Le salaire à vie. Oh, jeu de mots, bravo Max. Ah, t'as pas fait exprès. Non mais je suis ton faire-valoir. Oh, salaire ravi, bravo Max. Bon, merci, belle journée à tous.
Allez, bonne semaine, bonne semaine, bon mois tout le monde, c'est parti, au revoir.
Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel, oui essentiel, je suis essentiel, oui essentiel, on est essentiel. Allez, oui essentiel.